Il nous a parlé du roi soleil hier, Serge, et aujourd'hui il nous parle de l'Angleterre au XVIIe et XVIIIe siècle, et puis ça annoncera en fait toute la période dans laquelle les Lumières sont apparues, le siècle des Lumières, il nous en parlera jeudi. Voilà, c'est des cours à destination des secondes et des premières. Allez, on retrouve Serge Tizi.
Bonjour, chers auditeurs auditrices de Fréquence Mistral Manosque, chers élèves confinés et chers tous qui m'écoutez de plus en plus nombreux. Donc aujourd'hui, nous allons faire une réponse en fait au cours d'hier qui était sur la monarchie absolutiste française sous Louis XIV et nous allons voir un peu comment les Anglais, eux, ont échappé à cette monarchie absolue en instaurant une monarchie parlementaire. Et nous allons voir aussi en quoi est-ce que ça va influencer le siècle des Lumières. Les origines de cette monarchie parlementaire britannique sont à rechercher dans un grave conflit entre les monarques et le Parlement. Effectivement, depuis la défaite de Jean sans Terre à Bouvines face à Philippe Auguste au XIIIe siècle, eh bien, les Anglais, la monarchie anglaise a toujours été tempérée par le pouvoir des barons et des ecclésiastiques, mais aussi des grands marchands londoniens. Donc c'est au XVIIe siècle, donc sous la monarchie de Charles Ier, que se développe aussi une façon absolutiste de voir le pouvoir, puisque Charles Ier va régner pendant un certain nombre d'années sans le consentement de son parlement. Et comme Jacques Stuart, il voudra unifier l'Angleterre avec l'Écosse et l'Irlande dans un même royaume. Donc Charles Ier épouse Henriette, Marie de France, fille de Henri IV. La levée d'impôts et les rumeurs de conversion au catholicisme poussent le Parlement à lever une armée commandée par un puritain protestant, Olivier Cromwell. Après deux guerres civiles, Charles Ier Stuart est condamné à mort par hache à Whitehall, près de Westminster, et la reine se réfugie en France auprès de son frère. Le Parlement n'est plus composé que par la Chambre des députés alors, puisque la Chambre des lords, c'est-à-dire des nobles et du clergé, est abolie ainsi que la monarchie. Olivier Cromwell devient alors le lord protecteur de ce qu'on pourrait appeler une république, avec un parlement et un conseil, même qui aurait dû normalement être un contre-pouvoir, mais le parlement est lui-même dissous quelques années après l'arrivée d'Olivier Cromwell au pouvoir. Donc le résultat, c'est qu'on a une république qui ressemble de plus en plus à une dictature théologique, puisque le puritanisme protestant de Olivier Cromwell interdise en Angleterre, par exemple, le théâtre, la musique, la danse, enfin bref, on a presque l'impression d'avoir à faire avec un espèce de taliban protestant. Donc en 1660, renversement de pouvoir, le fils de Cromwell qui avait succédé à son père, eh bien est renversé par une armée qui vient d'Écosse qui réinstaure le fils de Charles Ier, celui qui avait été décapité, Charles II, qui s'était réfugié en France auprès du roi Louis XIV et qui revient donc en 1660 pour régner jusqu'en 1685. Donc Charles II est un roi plutôt tolérant religieusement, il a aussi des mœurs très légères, il a plein de courtisanes un peu comme son cousin le roi Louis XIV à l'époque. C'est sous son règne qu'est adopté le texte fondamental dans 1679 qui se nomme l'Habeas Corpus. L'Habeas Corpus est un des piliers des libertés publiques anglaises, anglo-saxonnes, ne s'appliquant à l'époque ni en Écosse d'ailleurs, ni en Irlande, pour des raisons religieuses et d'ordre parlementaire, puisque l'Écosse a encore un parlement à elle. L'Habeas Corpus veut dire « sois maître de ton corps ». En fait, elle ne s'adresse pas à la personne, à l'individu, elle s'adresse plutôt aux forces de police et de justice. Voilà ce que dit ce texte. Un officier de police, quel qu'il soit, ne peut arrêter que sur un mandat d'arrêt éminemment écrit par le juge et signé par un juge. L'officier de police doit présenter la personne devant le juge avant 3 jours. En l'absence de preuves ou de délits constatés, tout homme doit être libéré sur le champ. Une caution peut être demandée en cas d'enquête et de succession d'enquête. Seul un juge peut emprisonner et un tribunal juger quelqu'un à une peine de prison. L'habeas corpus est un acte juridique fondamental. Il s'oppose à la lettre de cachet. Je vous rappelle brièvement ce qu'était la lettre de cachet. Le roi Louis XIV pouvait, d'un trait de plume, vous envoyer à la Bastille pour un temps que lui seul définissait, avec pour le motif qu'il le voulait lui aussi. Donc le roi de France donc pouvait embastiller n'importe qui, envoyer à la prison à vie n'importe qui ou aux galères. Habeas corpus crée donc quelque chose de nouveau. La garde à vue, la commission rogatoire, l'enquête, le droit que rien ne peut être interdit si la loi ne l'interdit. Et la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ça veut dire que personne ne peut vous juger coupable, sauf un tribunal, le dernier jour de votre procès, selon des lois écrites et non selon la rumeur publique. Ni le pouvoir politique, ni la police, ni l'administration n'ont des pouvoirs à ce moment-là sur la justice. À la mort de Charles II, Jacques II doit fuir en France en 1688 après ce que les Anglais appellent la Glorieuse Révolution et seulement 3 ans de règne. Il voulait en effet une tolérance envers les catholiques et un rapprochement avec Rome, avec la constitution d'une armée puissante et permanente. La crise religieuse a donc été ravivée par l'arrivée d'huguenots français chassés et persécutés par Louis XIV. Le Parlement anglais a donc offert le pouvoir à la fille protestante Marie de Jacques II et à son époux Guillaume d'Orange, statuteur magistrat des Pays-Bas, lui aussi protestant. Son armée, renforcée d'huguenots, arrive à Londres et Jacques II est contraint à l'exil et de fait il est déchu de sa royauté. Guillaume et Marie deviennent donc rois et reines. En contrepartie, ils acceptent la déclaration des droits signée en 1689. Que dit cette déclaration 100 ans avant celle des Français, c'est-à-dire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Le premier droit, ce sont des droits individuels. Le droit d'adresse au monarque, c'est-à-dire que n'importe qui peut envoyer une question au monarque et au monarque de lui répondre. Le droit aussi, pour tout Anglais, de porter des armes pour se défendre. Le droit aussi de pétition. Le monarque ne peut agir sans le consentement du Parlement représenté par le gouvernement. Le Parlement doit être consulté pour toute levée d'impôts, d'armées, de suspension ou d'exécution des lois. Les libertés d'élection aux communes sont garanties. L'habeas corpus est renforcé par des peines moins cruelles. Encore que, quand vous voliez une pomme et que vous n'aviez pas la chance de tomber sur un juge sympathique, vous pouviez très bien être envoyé dans une des 13 colonies des Amériques pour purger votre peine. C'est donc une monarchie parlementaire qui instaure une liberté d'expression à défaut d'une liberté de culte. Je rappelle que les Irlandais n'ont toujours pas de liberté de culte et que les catholiques sont sévèrement soit persécutés, soit réprimés, puisqu'ils ne peuvent pas devenir eux-mêmes députés. Ce Bill of Rights n'invente pas la démocratie telle que nous la vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de vote. À l'époque, les seuls qui ont le droit d'être élus ou de voter aux communes, ce sont généralement les plus riches des comtés, ce sont aussi les plus riches marchands des grandes villes et des villes de anglaises, donc Londres en particulier, donc qui forment la majeure partie de la Chambre des communes, c'est-à-dire que si vous allez à Westminster, c'est la chambre qui est verte. À côté de cela, vous avez une chambre des lords qui reste encore en place, qui elle est en rouge, qui est notamment formée de noblesse héréditaire, de clergé, tous protestants, nommés à vie par le roi ou la reine sur proposition du premier ministre. Donc ces deux instances, ce biparlementarisme, il instaure un contrôle du gouvernement et du roi. Le roi ne peut rien faire sans le consentement du Parlement à partir de 1680. 89. Et ceci va être donc étendu à l'Écosse, puisqu'à partir de 1707, le royaume d'Écosse et le royaume d'Angleterre sont unifiés. Donc la monarchie parlementaire, puisque c'est une monarchie parlementaire, il n'y a pas de constitution en Angleterre, cette monarchie parlementaire anglaise s'oppose véritablement à la monarchie absolutiste française, par les libertés et la séparation des pouvoirs. L'Angleterre est aussi, je le rappelle, le lieu de renouveau de la pensée et des sciences. C'est le pays d'Isaac Newton, le grand scientifique qui développe la loi universelle de la gravitation. C'est aussi le pays d'Adam Smith, qui est un admirateur de Newton et qui essaye de trouver des solutions à une paix universelle par le libre-échange et par la liberté, les libertés économiques. C'est un pays où viennent se réfugier certains penseurs français, notamment Voltaire, qui vient s'y réfugier après avoir eu mal à partir avec un noble à Paris, et donc qui est obligé de se réfugier donc à Londres, et où il va séjourner donc pendant près de 2 ans. Et durant ces 2 ans de son refuge anglais, il rencontre toute l'intelligentsia de l'époque, les grands penseurs. Il assiste subjugué aux funérailles de Newton. Il est convaincu que les libertés, le Bill of Rights, l'habeas corpus donnent des libertés aux Anglais qu'il faudrait véritablement instaurer en France. À son retour en France, d'ailleurs, dans ses lettres philosophiques, à partir de 1734, il fait l'apologie des libertés, de la tolérance politique anglaise. Bien que à la fin, on trouve des critiques sur le fait que les catholiques ne soient pas véritablement en odeur de sainteté, dirons-nous, chez les Anglais de l'époque. Un autre Français, philosophe français, lui aussi impressionné par l'exemple anglais, c'est Montesquieu. Alors Montesquieu, c'est un Bordelais. Il entre comme conseiller au Parlement de Bordeaux. Il fait partie de la noblesse de robe de Bordeaux. Et comme à Bordeaux, les Anglais viennent à Bordeaux très fréquemment pour acheter du vin qu'ils ne produisent pas. Et le Bordeaux, c'est le vin qu'ils préfèrent. En plus de ça, il y a une relation, on va dire, historique avec l'Aquitaine, avec Aliénor d'Aquitaine. Donc, une relation historique et commerciale. Et donc, ces marchands anglais, ces marchands bordelais qui font le va-et-vient entre Bordeaux, la côte atlantique et puis l'Angleterre, s'inspirent mutuellement sur les exemples, notamment anglais, du Bill of Rights et de l'habeas corpus. Et donc Montesquieu, dans ses lettres persanes, il ironise bien sûr la société française. Et dans l'esprit des lois, il fait l'apologie de la séparation des pouvoirs qu'il a pu lui-même constater en Angleterre lors de son séjour en Angleterre. Donc cette séparation des lois, cette séparation des pouvoirs, pardonnez-moi, c'est celle bien sûr entre le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Donc ces trois pouvoirs doivent être séparés, c'est-à-dire que organiquement il les donne à des ordres plus ou moins constitués, c'est-à-dire que bien sûr il y a un roi, ça il ne remet pas en question la monarchie, mais il voudrait lui aussi un parlement qui soit indépendant du roi, une justice qui soit indépendante de celle du roi, avec un contrôle de tous ces pouvoirs les uns vis-à-vis des autres, pour que aucun ne puisse prendre le pouvoir sur un autre. C'est une des garanties pour lui des libertés individuelles, des libertés collectives, et puis d'une harmonie de la société. Attention cependant, ni Voltaire ni Montesquieu ne sont des démocrates au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Aucun des deux ne veut une démocratie universelle avec le suffrage universel où tout le monde aurait le droit de voter, tout le monde pourrait être élu. Pour eux, les seuls qui peuvent avoir ce pouvoir, ce sont bien, on va dire, une aristocratie du moins une aristocratie de robe plutôt que de naissance pour la plupart. Ces écrits de Voltaire et de Montesquieu sont connus à travers toute l'Europe du fait de que la langue française a été la grande langue du XVIIe, XVIIIe siècle, mais aussi parce que Voltaire a écrit en anglais et que ces écrits sont connus par les Anglais et ce sont pour Voltaire et Montesquieu de véritables succès. Et ces succès, ils se démontrent aussi et il va avoir son importance dans le siècle des Lumières et son développement notamment autour de l'œuvre de l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert. Donc que nous verrons donc la prochaine fois. Le suffrage universel, donc je le répète, n'est pas admis en idée à l'époque. Hein. Il n'y a pas de demande du peuple pour régner et être souverain. On a toujours un roi, on a toujours une noblesse, on a toujours un clergé. Bien que Voltaire soit anticlérical, on va dire, du moins contre la censure et la justice ecclésiastique, cet angle a bel et bien influencé la pensée philosophique française et donc celle du siècle des Lumières, que ce soit par l'habeas corpus ou que ce soit par le Bill of Rights. Et cette influence des Lumières françaises, que je répète, sont aussi des Lumières européennes, est développée autour de cette encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Ceci est donc une autre histoire que nous verrons jeudi et lundi prochain, nous quittons sur l'introduction musicale la plus française d'un groupe britannique. C'est All You Need Is Love des Beatles le 7 juillet 1967, c'est-à-dire 278 années après le Bill of Rights. Voilà, chers élèves, chers auditeurs, auditrices, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'Angleterre au XVIIe, XVIIIe siècle et son influence sur le siècle des Lumières que nous traiterons la prochaine fois. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon confinement, et puis profitez bien du soleil. Au revoir, bonne journée.
Love is all in me. 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 Love is all in me.